RFI Matin, on est ensemble jusqu'à 10h. À suivre, Boisqué, le dernier cold case de la France-Afrique, titre d'un livre enquête qui sort ce mercredi sur le bombardement du camp militaire français de Côte d'Ivoire il y a 20 ans. Son auteur, Thomas Hoffnung, sera notre invité.
Nathalie Amar.
Mais d'abord le rappel des grands titres de l'actualité à la une du prochain journal. Les États-Unis, l'avertissement de Joe Biden, ce pourrait être la pire tempête du siècle. Le président américain annule ses déplacements en prévision de l'arrivée de l'ouragan Milton sur la Floride. Ouragan repassé en catégorie 5, la plus élevée. Il devrait toucher la nuit prochaine ou en fin de journée la région de Tampa. Plus d'un million de personnes ont reçu l'ordre d'évacuer la zone. Dans le sud Liban, le Hezbollah affirme avoir repoussé à deux reprises des troupes israéliennes qui tentaient de s'infiltrer sur le territoire libanais. Les bombardements israéliens se sont poursuivis ces dernières heures par ailleurs sur les localités de Baalbek, Tyr et sur le sud de Beyrouth, la capitale. Le Hezbollah qui annonce de son côté vouloir intensifier ses tirs de roquettes sur le nord d'Israël et notamment sur la ville de Haïfa. Emmanuel Macron dans l'est de la France tout à l'heure aux côtés du ministre ukrainien de la Défense. Le président français va rendre visite à une brigade de soldats ukrainiens formés en France, une brigade de 2300 hommes. La revue de la presse africaine avec vous, Frédéric Couteau, bonjour.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
À la une, ce mercredi, la guerre à Gaza, vue d'Afrique.
Le conflit actuel dans la bande de Gaza n'a pas provoqué de rupture diplomatique nette du continent avec Israël, relève Le Monde Afrique, et ce, contrairement à la guerre du Kippour, 50 ans auparavant, lorsque la majorité des États africains avaient rompu tout lien avec lui. Aujourd'hui, seule l'Afrique du Sud, bien que premier partenaire commercial africain d'Israël, a fermé son ambassade à Tel Aviv après sa saisine auprès de la Cour internationale de justice. Pretoria accuse l'État hébreu de violer la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide. Il n'empêche, s'exclame Le Monde Afrique, Israël pâtit d'un sérieux déficit d'image en raison du nombre de victimes à Gaza, en témoignent les prises de position de l'organisation continentale L'Union africaine, historiquement solidaire de l'autorité palestinienne, elle avait condamné dès le 17 octobre de l'année dernière les crimes de guerre israéliens par la voix du président de la commission de l'UA, Moussa Faki.
Reste que si l'État hébreu a perdu de son influence dans nombre de pays d'Afrique, Tel Aviv tente néanmoins de la retrouver. C'est ce que constate encore Le Monde Afrique.
Oui, notamment grâce à ses ventes de matériel militaire ou d'outils de cybersécurité, deux domaines qui ont historiquement fait figure de produits d'appel auprès de ses partenaires africains, en préambule d'un rapprochement politique. Ainsi, malgré le conflit au Proche-Orient, les affaires continuent discrètement, relève le journal qui cite quelques exemples. La marine sénégalaise a reçu en juillet dernier des navires de débarquement de fabrication israélienne. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, fait appel depuis plusieurs mois à une société privée dirigée par un ancien membre du Shin Bet, le service de renseignement intérieur israélien, pour sa protection personnelle. Le Maroc s'apprête à accueillir une usine de production de drones militaires israéliens et a acquis en juillet dernier deux satellites d'observation vendus par Israël.
Les manifestations les plus importantes en faveur de Gaza pour le premier anniversaire du conflit ont donc eu lieu en Afrique du Sud.
Notamment au Cap, relève le Huffington Post, où des centaines de personnes ont manifesté le week-end dernier agitant des drapeaux palestiniens et scandant des slogans anti-israéliens. Munis de pancartes accusant Israël de génocide et de racisme, les manifestants, dont beaucoup portaient le kéfier, symbole de la lutte palestinienne contre Israël, les manifestants se sont dirigés vers le Parlement sud-africain. Israël est un État raciste. Nous sommes tous des Palestiniens, ont scandé les manifestants. De nombreux Sud-Africains comparent la position d'Israël envers les Palestiniens à l'apartheid, le régime ségrégationniste imposé par la minorité blanche dans le pays jusqu'aux premières élections multiraciales de 1994.
Également à la une ce matin, les rumeurs sur l'état de santé de Paul Biya, 91 ans.
Oui, hier, les autorités camerounaises ont dénoncé des commentaires tendancieux et ont assuré que le chef de l'État camerounais se portait bien et rejoindrait le Cameroun dans les prochains jours. Paul Biya n'est plus apparu en public, rappelons-le, depuis son départ de Pékin début septembre, après le sommet du Forum de la coopération Chine-Afrique. Il n'a pas participé à la dernière Assemblée générale des Nations Unies à New York, ni au dernier sommet de la francophonie à Paris. Ce qui, évidemment, a provoqué des interrogations.
Et c'est bien normal, relève le quotidien aujourd'hui à Ouagadougou.
Et oui, si la santé de Paul Biya est intimement suivie, c'est qu'elle est consubstantielle à l'avenir du Cameroun, affirme le quotidien burkinabé. Après les longs règnes, les après longs règnes sont forcément chahutés, pour ne pas dire plus, en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Togo, surtout quand on sait que Paul Biya s'est méthodiquement attelé à trancher toutes les têtes de ses vrais faux dauphins via des congédiements et même avec l'épervier du nom de son opération main propre. L'après Biya reste donc une énigme, constate encore aujourd'hui, et chacun regarde le palais d'étoudi avec une gourmandise teintée de crainte. Enfin, ce commentaire du pays, toujours au Burkina Faso, si le président Paul Biya veut couper court à toutes les folles rumeurs le concernant, eh bien, il gagnerait comme un vieux lion à sortir de sa tanière et à rugir.
Frédéric Couteau, pour la revue de la presse africaine. On vous retrouve à 9h15 pour un coup d'œil à la presse internationale. C'est un mystère qui demeure 20 ans après. Qui a commandité le bombardement du camp militaire français de Bouaké en Côte d'Ivoire le 6 novembre 2004? Cette frappe a causé la mort de 10 personnes, dont 9 soldats français. En France, comme en Côte d'Ivoire, les principaux protagonistes sont toujours vivants, mais c'est l'omerta. Aujourd'hui, le journaliste enquêteur Thomas Hofnung émet tout de même une hypothèse. Chef du service international au quotidien La Croix, il publie ce mercredi Bouaké, le dernier cold case de la France-Afrique. Il est ce matin l'invité de Christophe Boisbouvier.
Thomas Hofnung, bonjour.
Bonjour.
La thèse de l'avocat Jean Balland sur Bouaké, c'est qu'il s'agit d'une bavure franco-française. Les Français auraient poussé le bombardier ivoirien à frapper le bâtiment, qui était censé être vide à ce moment-là. Et cela aurait pu alors servir de prétexte aux Français pour se débarrasser du régime de Laurent Gbagbo. Mais vous écrivez que vous n'y croyez pas. Pourquoi ?
Parce que je crois au contraire qu'à cette époque, donc en novembre 2004, la France s'est interposée entre les rebelles de Guillaume Soro et le régime de Laurent Gbagbo. Et la France est coincée entre les deux, elle prend des coups de tous les côtés. Et en novembre 2004, on voit qu'on a des renseignements qui expliquent que Laurent Gbagbo va probablement lancer une offensive. La France décide de laisser Gbagbo attaquer. C'est ce que j'appelle dans le livre le feu orange. On sait qu'il y a des équipements, des munitions qui arrivent, qui sont d'ailleurs livrés par un marchand d'armes français, Robert Montoya. Et donc, on pense au contraire que pour sortir de la nasse, en quelque sorte, il faut laisser Gbagbo attaquer. On verra bien ce qu'il en ressort. Donc, je ne pense pas du tout que ce soit un coup franco-français qui est mal tourné, qui était destiné à déposer, à renverser Laurent Gbagbo.
Autre thèse sur ce bombardement, elle est défendue par certains officiers français comme le colonel de Revel, c'est celle de l'erreur de tir. Les bombardiers ivoiriens traquaient frénétiquement les positions rebelles dans Bouaké et l'un des Sukhoi aurait raté sa cible. Et là non plus, vous n'y croyez pas. Pourquoi ?
Alors je dois dire que j'y ai cru à un bon moment jusqu'à ce que j'aille à Abidjan pour essayer de rencontrer un certain nombre de protagonistes de l'époque et qui, je dois dire, se sont tous défilés quand j'ai essayé de les rencontrer. Ce qui a suscité chez moi une certaine forme de suspicion, me disant peut-être que effectivement ils ont quelque chose à cacher, toutes ces personnes, et peut-être que ce qu'ils ont à cacher, c'est qu'ils ont fait une erreur, mais non pas de tir, mais une erreur de ciblage, c'est-à-dire qu'ils pensaient cibler les rebelles, pensaient peut-être que les rebelles se cachaient dans le camp français, ça a été dit par certains, notamment par l'ancien ambassadeur Jean-Marc Simon, d'ailleurs à votre micro au moment du procès. Et il me semble que c'est sans doute la thèse la plus vraisemblable. Ils ont peut-être cru vraiment qu'ils bombardaient les rebelles, mais peut-être des rebelles cachés par les Français.
Alors si on retient l'hypothèse de cette erreur de ciblage, qui aurait pu donner cet ordre ? Est-ce que c'est au niveau de Laurent Gbagbo lui-même ?
Je ne le crois pas. Je pense que pour en avoir parlé plusieurs fois avec lui, il l'a redit lors du procès de 2021, l'ambassadeur de France s'est rendu, était dans le bureau de Laurent Gbagbo. Je raconte cette scène dans mon livre, très peu de temps après le bombardement.
Une heure après.
Il a vu un homme absolument défait qui apprenait quasiment la nouvelle. Donc je pense que ce n'est pas Laurent Gbagbo. Je pense qu'il avait complètement sous-traité cette affaire aux militaires. Et alors après, reste à savoir à quel niveau, est-ce que c'est un niveau très élevé ou pas ? Est-ce que c'est Cadet Bertin, qui était un des plus proches conseillers de Laurent Gbagbo et qui était très très remonté contre les Français ? On ne peut pas exclure, je crois, que ce soit un niveau subalterne, peut-être à Yamoussoukro, où était l'état-major de l'opération Dignité, peut-être un officier qui a eu ce renseignement et qui s'est dit, avec cette frappe, on va emporter la victoire, on va montrer que les Français sont complices des rebelles et on en aura fini une bonne fois pour toutes, et avec les rebelles et avec les Français.
Et vous évoquez le nom du lieutenant-colonel Patrice Wey qui commandait les opérations aériennes ivoiriennes à Yamoussoukro.
Oui, alors il a un profil intéressant, Patrice Wey, parce qu'il se trouve qu'il avait été officier commandant à Bouaké, qu'il a vécu en direct l'humiliation de septembre 2002 quand les loyalistes ont dû fuir la ville devant les rebelles. Il a une revanche à prendre.
Et il a été condamné par la justice française il y a 3 ans.
Il a été condamné par la justice française par contumace. Son avocat, curieusement, lors du procès à Paris, a fait savoir que son client, donc Patrice Wei était totalement hors de cause dans cette affaire et qu'il était prêt à témoigner. J'ai essayé de le rencontrer à Abidjan et curieusement, son avocat m'a dit qu'il avait perdu sa trace. Là aussi, je pense que peut-être il n'avait pas spécialement envie de parler.
Alors l'omerta, il n'y a pas que les témoins qui ont des choses à dire, il y a aussi les enregistrements de l'époque, notamment celui de la conversation entre le pilote biélorusse et le copilote ivoirien à l'intérieur du bombardier Sukhoi qui va frapper le camp militaire français. Et ce qui est incroyable, c'est que vous écrivez que cet enregistrement, eh bien, il existe, il est aux mains des autorités françaises, mais que celles-ci refusent de le livrer à la justice française.
Effectivement, une enquête a démarré et les juges qui se sont succédés, il y en a eu 4. Je crois que c'est la première, Brigitte Reynaud, qui avait demandé la déclassification de ces enregistrements. Et en fait, on lui a opposé le secret défense. Donc ces enregistrements, j'avoue que je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas été versés dans le dossier et qu'on ne les ait pas entendus lors du procès. Je pense qu'ils auraient pourtant éclairé de manière cruciale les débats. Je crois que les familles attendent toujours des réponses et le procès n'a rien résolu dans ce domaine.
Thomas Hofnung. Merci.
Bouaké, le dernier cold case de la France-Afrique, l'ouvrage de Thomas Hofnung est paru chez Fayard. Vous retrouvez évidemment cet entretien sur RFI.fr. À Paris, il est 9h05. Avant le journal dans RFI Matin, c'est le sourire de Maman. Et au Gondwana, Maman, il est très impoli de demander des nouvelles de la santé de président fondateur.
Oui, dans la vie, les règles de bienséance font que la curiosité d'un gentleman a des limites. Il ne pose pas certaines questions en société. Par exemple, à une dame, mon ami, tu ne demandes jamais son âge, à moins d'être un indécrottable goujat. À un boss, tu ne demandes jamais combien il gagne. Ça peut être très très dangereux pour toi. Mais sache qu'à part ça, eh bien, en très très démocratique république, rien n'est interdit, tout est permis. Tu peux tout dire, tout faire, tout écrire, tout chanter, tout dessiner, tout publier. Tu peux poser toutes les questions que tu veux, mais ça dépend. Ça dépend de quoi? Eh ben, ça dépend. À toi de voir, mon ami. Ça dépend de toi, hein. T'es majeur et vacciné. Ça dépend si ce que tu as à écrire, chanter, dire, eh ben, si ça intéresse quelqu'un. C'est-à-dire, si ce quelqu'un est prêt à venir donner ses noms, prénoms, adresses, se mettre à côté de toi à midi pile sur la place publique et dire que ce que tu as écrit, publié ou dit, s'il est d'accord avec ça, lui. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Tu peux poser toutes les questions que tu veux à n'importe quel gondouanais que tu croises. Tu poses la question la plus sensible qui soit la plus intime, c'est-à-dire « comment tu vas ?» Eh ben, c'est-à-dire comment il a dormi, s'il a bien mangé, s'il n'a pas fait de cauchemar, s'il n'a pas mal quelque part, si la crise n'est pas trop dure, le boulot, la famille, les voisins, les moustiques, les délestages, etc. Comment il va, quoi? Et il te répondra toujours avec le sourire parce que vous êtes dans un pays libre, la très très démocratique république. Et cette question, tu peux la poser 10, 20, 100 fois, t'auras toujours la même souriante réponse. Oui, ça va bien. Et toi? Bon, je sais que tu es en train de te demander si vraiment cette question, tu peux la poser à n'importe quel gondouanais. Eh ben, ça dépend. Par exemple, tu peux pas la poser à notre leader bien-aimé, son excellence président fondateur. Tu peux pas dire « Comment ça va, président fondateur ?» D'abord, tu vas le croiser où pour lui demander ça? Il est au palais, t'es au quartier. Il est dans sa limousine, tu marches dans la poussière. Il est dans son jet, tu le regardes à la télé. De toute façon, même si par le plus grand des improbables hasards, tu tombes nez à nez avec notre leader bien-aimé, crois-tu que Sergent s'en fout la mort des autres te laissera lui demander comment ça va? Donc, reste tranquille. Ça te regarde pas si président fondateur va bien ou pas. Ce n'est pas ton problème. Occupe-toi de ta santé à toi. Lui, il s'occupe de la sienne. S'il part se faire soigner là-bas, loin du pays, c'est justement pour ne pas que tu t'inquiètes pour sa santé. Et si tu insistes, tu seras inculpé pour atteinte à la sécurité de l'État, atteinte à l'unité nationale, à la stabilité et au bon fonctionnement des institutions. Donc, arrête de demander aux gens comment ils vont. Tu n'es pas docteur, hein? À demain.
À demain, Maman. Bonne journée à vous. Dans deux minutes, Léa Boutin-Rivière avec nous pour le journal. Et puis, on ira en Chine, où l'adaptation d'un classique de la littérature, Le Voyage vers l'Ouest en jeu vidéo, relance l'activité économique et touristique dans le Shaanxi. C'est Claire Brothers qui nous le racontera. À tout de suite.
Together Production, World Tour Records, Jasper Prod et RFI Talent présente. Le Bénin International Musical. Découvrez Positif Vaudou, le nouvel album de ses ambassadeurs d'un rock animiste, disponible sur toutes les plateformes.
tous les sports sur RFI avec Annie Gasnier et Hugo Moissonnier.
Il n'y a pas que le football dans la vie.
Le sport, tous les jours sur RFI, du lundi au vendredi, Radio Foot et le Café des Sports à 16h10, temps universel.
Le samedi et le dimanche, Mondial Sport, à la même heure, des invités, des reportages pour évoquer les exploits aux quatre coins du globe. Radio Foot, c'est avec
Annie Gasnier, Mondial Sport avec
Hugo Moissonnier.
C'est sur RFI, mais aussi en podcast sur RFI.fr. Ce mercredi sur RFI,
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Juliette Gerbrandt.
Reportage à Kiev, où malgré la guerre, plusieurs compagnies de guides organisent des visites des sites historiques de la capitale ukrainienne. Parmi les visiteurs, des résidents, des étrangers, mais aussi de plus en plus de déplacés internes qui ont fui le front et les zones occupées par la Russie.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 19h10 TU, sur RFI. Retrouvez RFI sur WhatsApp.
Vous pouvez recevoir l'essentiel de l'actualité internationale sur votre application de messagerie et réagir aux informations. Pour vous abonner, rendez-vous sur l'application WhatsApp dans la rubrique Actu. Tapez RFI dans la barre de recherche, demandez à suivre notre chaîne et activez les notifications.